Alors, épître de Jacques, chapitre 2, une épître qui met l'accent sur la dimension pratique de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, c'est la lettre que plusieurs commentateurs s'accordent pour dire que c'est la lettre qui est le plus vieil écrit du Nouveau Testament. Parce qu'à l'époque, les disciples n'avaient pas le Nouveau Testament. Il y avait l'Ancien Testament, les Écritures, c'était l'Ancien Testament, et Jacques aurait écrit une des premières lettres qui a formé le Nouveau Testament. Et à la suite de ça, se sont ajoutées justement d'autres lettres, les Évangiles et l'Apocalypse. Et la Bible est le résultat d'une prophétie. Dans Ésaïe 34:16, ça nous dit « Consultez le livre au singulier, aucun d'eux ne fera défaut, aucun d'eux au pluriel, et c'est mon esprit qui les réunira. » Et donc, Dieu avait prédit qu'il allait avoir un ensemble de livres qui forment un seul livre, qui est la Bible. Et Jacques, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'adresse aux Juifs qui sont dans la dispersion. Et donc, c'était les Juifs qui étaient soit dispersés, les Juifs chrétiens, évidemment, croyant en Jésus-Christ. Il s'adresse à des croyants en Jésus-Christ. Donc, les Juifs qui étaient dispersés soit à cause de la persécution ou soit que leur père avait été déporté au travers de l'Asie mineure, en Europe, à cause de la déportation qu'il y a eu en Babylone, tout ça. Et il y a des gens qui ont quitté, qui ont fui et qui ont commencé à se repeupler, si on veut. Puis, ils ont ouvert des synagogues ou des lieux de culte et puis ils sont mis à adorer à l'époque Yahweh. Et il y en a certains d'entre eux qui se sont convertis, évidemment, à Jésus-Christ. Et Jacques leur adresse cette lettre-là. On voit ça dans Jacques, chapitre 1, verset 1. Et il amène un sens pratique. Et il ne faut pas perdre de vue que cette lettre est écrite, justement, à des Juifs messianiques. Parce que ça va nous aider à bien comprendre le sens et l'esprit du chapitre 2. Et le titre de mon message, ça pourrait être « Affranchi de l'interprétation pharisaïque ». Il faut comprendre que les Juifs, à l'époque, avant de se convertir, étaient enseignés par des scribes, par des pharisiens. Hey, c'est le fun, il n'y a pas de fil. Je file bien. Alors, et donc... je vais essayer de ne pas perdre le fil, par exemple, dans ce que je dis. Et donc, il était enseigné dans un esprit pharisaïque. Et justement, Jésus, lui, avait fait certains reproches aux pharisiens en disant, « Ce qu'ils vous disent, c'est bien, mais ne faites pas ce qu'ils font. » Et l'enseignement des pharisiens était, c'était un genre de venin. C'était un enseignement qui amenait à l'hypocrisie, qui amenait à avoir, si on veut, une vie qui n'était pas conforme à ce que Jésus s'attendait. Parce que Jésus va le dire aux pharisiens, hein, vous sondez les Écritures pour vous penser trouver avoir la vie dans les Écritures, mais vous ne venez pas à moi dans Jean chapitre 5. Et donc, l'enseignement des scribes et des pharisiens produisait une mentalité. Une mentalité, ce qu'on peut dire, qui était apparentée justement à la connaissance du bien et du mal. C'était beaucoup oui ou non, blanc ou noir, vrai ou faux. Et c'était un enseignement, par exemple, où est-ce qu'on voit dans le Deutéronome 28, parce que les pharisiens s'appuyaient sur les Écritures. Mais il amenait un fardeau, il amenait une dimension de la vie qui était hors contexte à ce que le Seigneur voulait pour le peuple de Dieu. Et dans la pensée, justement, juive à l'époque, on voyait que dans le Deutéronome 28, le Seigneur avait donné une série de bénédictions pour le peuple de Dieu en disant, « Écoute, si tu suis mes voies, si tu marches selon ma loi, et si tu m'es fidèle, si tu es fidèle à l'Alliance, voici les bénédictions qui vont t'arriver. » Puis après ça, à partir du verset 15, il va dire, « Ben, si par exemple tu dévies, voici les malédictions. » Puis ça pourrait même t'amener à être déporté, à vivre une déportation. Et donc, ce que ça faisait, c'est que dans la mentalité des Juifs, puis on se reposait sur la parole de Dieu. Par exemple, on le voit dans Josué chapitre 1, hein, il dit, quand il dit « médite » le livre de la loi, puis qu'est-ce que ça va amener comme conséquence, tu sais, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de sa bouche, médite-le jour et nuit, c'est alors que tu vas réussir dans tes entreprises, tu vas avoir du succès. Dans le psaume 1, on voit la même chose, hein? Celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, on voit dans le Proverbe chapitre 3 également, tu sais, donne tes prémices à l'Éternel, puis tu n'auras pas à t'inquiéter, tes hangars vont être abondants. Psaume 37, il dit, j'ai jamais vu le juste abandonné, ni même mendier son pain. Donc, ça produisait une mentalité chez les Juifs où est-ce que si tu es riche, tu es prospère, tu es béni de Dieu. Si tu es pauvre, tu n'es pas béni. Dieu t'a peut-être maudit. Et là, ça amenait une distance chez eux. Il y avait une distance, il pouvait avoir même chez certains un mépris. Et donc, Jacques, lui, adresse ça. Et c'est pour ça qu'il arrive, on le voit à la fin du chapitre 1, il va parler de la vraie religion, c'est de s'occuper des gens, c'est de s'occuper de ceux qui sont dans le besoin. C'est de rencontrer les besoins. L'apôtre Paul en a parlé, il dit, si vous êtes riche, si Dieu vous enrichit, ben c'est pour pourvoir aux besoins de ceux qui en ont moins. Le surplus des uns compense au manque des autres. On n'est pas riche pour soi-même, on est toujours riche pour un pauvre. Ce qu'on a reçu, c'est pour qu'on puisse le donner. Et c'est cette mentalité-là que Jacques vient adresser en disant non, parce que cette mentalité-là, d'avoir un mépris envers ceux qui ne sont pas comme on s'attend qu'ils devraient être, eh bien, ça produit un venin dans l'Église. Parce que à l'époque, faut pas oublier que il y avait deux problèmes. Il y avait le problème des persécutions, puis il y avait le problème des fausses doctrines. Et Jacques, lui, veut s'assurer que les gens sont bien enseignés, spécialement ceux qui sont dans la dispersion. Parce que lui, Jacques, il était l'ancien principal de l'Église de Jérusalem. Et donc, c'est pour ça qu'il va dire au chapitre 2, il va parler de ne pas faire de distinction. Pas faire de distinction sur le plan social, pas faire de favoritisme, par exemple, en fonction d'un riche ou d'un pauvre. La parole de Dieu nous dit à d'autres endroits de ne pas faire de distinction, par exemple, pour quelqu'un qui soit juif ou qui soit païen, qui soit grec, dans Romains 2.11. Ça va dire de ne pas faire de distinction envers aucun frère, dans Colossiens 3.25, puis ni auprès de ceux qui sont des dirigeants ou des patrons, dans Éphésiens 6.9. Et donc, à ce moment-là, le texte commence ainsi. « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout. » Ou bien, assis-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, avilissez-vous le pauvre? N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traitent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché et vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Ici, on va se mettre dans le contexte parce que ce passage-là, je pense que j'ai été trop vite. Hein? Excusez-moi. Ce passage-là, il est, bon, voilà, il fait partie de l'ensemble de la lettre. Voyez-vous, vous avez au début la lettre de Jacques, il y a l'introduction, ensuite il y a l'endurance de la foi, et chaque section commence avec « mes frères ». Hein? À chaque fois, ça commence avec « mes frères », et là on voit que Jacques passe à une nouvelle section. Ensuite, vous avez le rôle de la parole de Dieu, le respect des individus, puis c'est ça qu'on va toucher aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, on voit que Jacques, lui, veut démontrer qu'il y a des épreuves, on doit y faire face, et la parole de Dieu va jouer un rôle primordial dans notre vie. Mais elle doit, la parole de Dieu, nous amener à ne pas avoir un mépris pour les frères, mais au contraire, avoir un amour, puis savoir gagner les gens, les gagner et les ramener à la foi. Et il va, par la suite, c'est pour ça qu'il va dire, bien, si tu as la foi, c'est pas juste parce que tu parles, c'est pas juste parce que tu t'exprimes tes croyances. Il va avoir des actions. Par exemple, moi, si je crois que c'est important d'aimer mes enfants, puis à tous les jours, je leur crie par la tête, puis je leur donne une claque en arrière de la tête, bien, qu'est-ce qui parle plus? Ce que je vais dire à mes amis, hey, moi, je trouve ça important d'aimer mes enfants puis leur donner de l'affection, c'est mes œuvres qui vont parler. C'est mes œuvres, c'est mes actions qui vont témoigner de ce que je crois. Ensuite, et dans une communauté, justement, le contrôle de la langue, c'est tellement important parce que des calomnies, des médisances, ça peut détruire une église. Hein? Une seule mauvaise parole. La calomnie, ce sont des faits, mais qui sont déformés, incomplets ou faux. Écoutez, c'est comme, à un moment donné, un prédicateur avait déjà dit, il avait dit, imagine que il y a deux personnes qui parlent, il y a un autre qui passe en bicyclette. Puis là, c'est deux frères qui parlent. Puis il dit, bien, il entend juste un bout de la conversation. Il dit, ce frère-là, faut qu'il meure à ses besoins. Mais le gars qui passe en bicyclette, il entend juste « ce gars-là, il faut qu'il meure ». Fait que là, il s'en va voir le pasteur, il dit « hey, le frère Éric, il veut tuer tel frère ». Il a entendu une vraie information, mais c'est incomplet. C'est hors contexte. Et là, ça peut créer un tollé. C'est incroyable. À un moment donné, une chance que c'est resté à vase fermée, mais ça a été grave, une erreur de ma part que j'ai faite. À un moment donné, je parle avec quelqu'un. Puis là, lui, il me parlait de sa conjointe. Moi, dans ma tête, à ce moment-là, conjointe, ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui tu vis et tu n'es pas marié. Fait que je dis à un autre, je dis, attends une minute, là, il n'est pas marié, lui. Et moi, ce que je ne savais pas, c'est que cette personne-là avait eu des problèmes avant d'adultère et tout ça. Fait que là, l'autre personne pensait qu'il était retombé dans le péché. Et là, ça l'a fait une catastrophe. Là, une chance, ça a resté juste comme entre nous trois, puis que ça ne s'est pas répandu. Bien, quatre, parce que là sa femme était troublée, puis ça a remis des doutes, puis tout ça. Mais juste parce que j'ai mal compris le sens d'un mot, toute la confusion que ça l'a créé. Et c'est pour ça que c'est important quand il y a des choses qui doivent être corrigées ou mises en lumière dans une église. Ça ne prend pas grand-chose, puis une rumeur part, puis ça crée un danger. Le danger des amitiés non chrétiennes également, l'avertissement concernant le jugement. Jacques va juger des choses et la vie d'ici le retour du Seigneur. Et il va y avoir, au travers de cette lettre-là aussi, six tests et de l'épreuve de la foi que nous dit le docteur Arnold J. Fruttenbaum. Et dans ces tests-là, on voit que, premièrement, notre réponse à la parole de Dieu. Ensuite, ce qu'on va voir, les réactions face aux distinctions sociales. Et la lettre va poursuivre en fonction d'une autre épreuve, la production d'œuvres, le contrôle de soi par la langue, la réaction à la mondanité, puis le recours à la prière. Et donc ici, quand il dit « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposons en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi à cette place d'honneur », Et si vous dites aux pauvres, « Toi, tiens-toi là debout » ou bien « Assis-toi dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Et c'est là qu'il va commencer à dire, bon, là, s'il y a quelqu'un qui est riche, qui rentre, là, tu vas-tu lui donner la préséance? Tu vas-tu le... Et il est en train de briser ce que je disais tout à l'heure, cet enseignement pharisaïque en disant, mets pas l'accent sur les apparences. Vois au-delà des apparences. Recherche pas ce que la personne peut te rapporter. Mais une communauté, ça se bâtit avec des cœurs qui sont enseignables. Une communauté, ça se bâtit avec des gens qui recherchent la parole de Dieu. Et est-ce que tu vas te donner autant à une personne qui semble à la vue t'apporter plus, ou tu vas te donner à une personne parce qu'elle veut connaître le Seigneur, elle veut grandir avec Christ? Et ça fait toute la différence, hein? Il y a des gens qui, à la vue, ne seront jamais rentables. Moi, je me souviens de Paulette au Saguenay. Je veux dire, hein, vous vous souvenez de Paulette? Hein? Paulette, c'était une femme qui avait eu la polio. Fait qu'elle marchait, elle était croche. Puis, en plus, elle avait de la difficulté à parler. Et elle était sourde. Elle lisait sur les lèvres. Ou elle était capable de lire. Mais Paulette... Combien que cette femme-là, elle était fidèle, elle était là à chaque réunion. Elle n'entendait rien. Elle lisait sur les lèvres le pasteur, qu'est-ce qu'il disait, puis elle pouvait capter. Puis elle avait une foi authentique, une foi sincère. Puis des fois, là, elle chantait, elle nous regardait chanter, puis elle Jésus! Puis là, ça faussait, mais c'était une femme extraordinaire. C'était une femme qui a touché mon cœur. Des fois, je la prenais dans mes bras, puis elle était là avec sa canne, puis elle me donnait des coups. Lâchez-moi! Mais... C'était peut-être les seuls moments d'affection qu'elle avait, cette femme-là. Mais Paulette, là, c'était une femme qui était fidèle, qui était là à chaque réunion. Combien qu'elle a touché mon cœur, cette femme-là. Combien qu'elle disait. Il y aurait des gens qui auraient dit, « Ah, oh, il fait trop froid, je ne viens pas à l'église. Ah, oh, il pleut, je ne vais pas à l'église. Ah, oh, enfin, une fin de semaine qui fait beau, je vais aller faire de la planche à voile, je n'irai pas. » Elle était là, continuellement, elle était là. Mais elle a vu... Certains pouvaient la trouver méprisable. Mais Dieu, lui, voyait son cœur. Et vous savez, parce que là, certains vont dire, oui, mais pourtant, dans Luc 14, Jésus raconte une parabole, puis il va dire, bon, ben assis-toi pas en avant, parce que s'il y a un invité d'honneur, puis tu le fais asseoir en avant, puis là, les organisateurs disent, ben on va devoir te changer de place, va t'asseoir en arrière parce que là, on a un invité d'honneur. Il y a un temps pour avoir des invités d'honneur. Par exemple, si le premier ministre venait ici, puis on l'invite parce que, je ne sais pas, moi, l'Église a fait une campagne de collecte de sang, tout ça, puis là, il vient à l'Église puis il remercie l'Église. Tu ne fais pas asseoir le premier ministre en arrière, tu dis, prends ta place, tu es au même titre que les autres. Non, c'est un honneur qu'il nous fait. On va lui donner une place d'honneur. Par contre, s'il se convertit, puis il accepte le Seigneur, puis il vient, puis ça devient son Église, puis il devient membre, puis il est né de nouveau. Bien là, tu ne le fais pas asseoir en avant parce qu'il est premier ministre. C'est un membre parmi tant d'autres. Il va s'asseoir où est-ce qu'il devra s'asseoir? Il y a cette nuance-là qui est importante à considérer. Les Écritures nous apportent justement différents contextes pour qu'on puisse analyser, puis qu'on puisse être éclairé. Et donc, il dit, « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? » Et là, on voit les parallèles que Jacques fait avec le sermon de la montagne, parce que c'est le demi-frère de Jésus, et puis certainement qui a récupéré, il a reçu de ça, et à plusieurs reprises, on n'aura pas le temps d'aller voir, mais il y a plusieurs allusions au sermon de la montagne qui sont là. Et il va dire... Et vous, vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Et effectivement, dans la parole de Dieu, on voit que quand il y avait à l'époque un genre de mépris, parce que le mot « Christ », ça veut dire « oint », hein? Et « oint », ça veut dire « enduire d'une pommade, d'une huile ou d'un parfum ». Fait que ce qu'il y en a qui faisaient comme jeu de mots, ils disaient « Ah, c'est les onctueux ». On méprisait les gens, c'est les onctueux, tu sais, ils sont remplis de pommade. c'est de pommade. En d'autres mots, là, si on le disait en québécois ici, là, bon, peut-être ça pourrait choquer, là, mais je m'aventure quand même. C'est comme si on dirait, parce que ça va vous aider à comprendre, vous êtes des fifis. C'est comme être un chrétien, c'est un fifi. Il est rempli de pommade. C'est un chrétien, c'est un onctueux. Et puis, c'est à ça qu'il fait référence Jacques, en disant, pourquoi les riches, c'est eux autres qui, eux, vous méprisent les chrétiens. Pourquoi vous leur faites une place d'honneur au-dessus d'un pauvre? Faites attention. Et là, et Jacques les ramène à leur bon sens en disant, non, faites pas soyez pas partial, parce que le riche peut te rapporter davantage. Gloire à Dieu, si Dieu va utiliser des riches s'ils sont humbles. Comme je vous ai dit, si Dieu a donné à des gens d'être plus prospères, bien c'est pour bénir. Moi, je connais des gens d'affaires qui investissent des fortunes dans l'œuvre de Dieu, puis soutiennent des missionnaires à travers le monde, contribuent à ce que l'œuvre de Dieu avance. Puis j'étais tellement content de voir un garçon qui est venu m'aider à travailler chez nous, parce que moi, je suis vraiment pas manuel, puis il est venu pour poser la céramique dans la cuisine puis dans les salles de bain. Puis il me disait, puis c'est un gars qui a du talent, il pourrait faire n'importe quoi. Autant il pourrait être mécanicien, autant il pourrait être dentiste. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais dis-moi, là, il y a un homme d'affaires, là, il y a des hommes d'affaires qui m'inspirent, puis leur vision, eux autres, c'est d'avoir de plus en plus d'argent pour en donner de plus en plus à l'œuvre. Puis c'est des gens qui vivent, tu regardes leur maison puis leur train de vie, ils vivent modestement. Puis ils ont de l'argent à plus finir. Mais ils vivent modestement. Puis ils disent, moi, je veux, c'est ça que je veux. Je veux là, démarrer une entreprise pour soutenir l'œuvre de Dieu. Lui, il a compris le sens de s'enrichir. Il a compris que ce que Dieu nous donne, là, eh bien, ça vient de lui. Et c'est pour contribuer au bien de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il dit, n'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale, donc la loi du roi, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Et là, Jacques fait référence justement au Lévitique 19, justement au commandement de s'aimer. Et il va faire référence également à Marc chapitre 13, quand il dit, c'est quoi le plus grand commandement? Aime ton Dieu de tout ton cœur, puis aime ton prochain comme toi-même. Et encore une fois, il revient à une citation de Jésus-Christ. Et il essaie de nous ramener en disant que la loi, là, parce qu'on le sait dans le psaume 19, ça dit que la loi, ça restaure notre âme, mais la loi, elle est en vue du prochain. Si j'exerce, si j'accomplis la loi, là, si je mets en pratique la loi, ce n'est pas seulement pour moi-même. C'est pour être une bénédiction pour l'autre. C'est pour être une ressource pour l'autre. C'est pour être un soutien pour l'autre. Et là, c'est ce raisonnement-là qui est en train de développer en disant, la spiritualité que tu es en train de développer, là, c'est pas juste pour toi. C'est pas ta croissance, elle ne s'arrête pas à toi. Quand tu dis, c'est important que je puisse grandir, puis c'est ce que Paul va dire à Timothée, que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Mais pourquoi? L'Épître aux Hébreux nous le dit, il dit à la deuxième personne du pluriel, « Recherchez la sanctification, sans laquelle personne, » là c'est la troisième personne du pluriel, « sans laquelle personne va pouvoir voir le Seigneur. Si je ne me sanctifie pas, les gens autour de moi ne pourront pas voir le Seigneur dans ma vie. Et si le Seigneur veut se glorifier au travers de ma vie par pure grâce, puis à travers ta vie par pure grâce, » c'est parce qu'il veut se faire connaître aux autres par toi. Mais le problème, c'est qu'il y avait certains frères que eux, leur gloire, c'était « oui, je vais mettre entre guillemets en pratique la parole de Dieu, mais pour s'élever au-dessus des autres, pour juger les autres, pour critiquer les autres, pour être... » Ça me fait penser, mais lui, ses motifs sont différents. Mais bon, depuis une année, là, à cause de mon fils et de ma femme, je me suis mis à m'entraîner. Moi, j'avais dit, puis pourtant, c'est pas nécessairement biblique comme tel, mais il y a de la sagesse là-dedans, il ne faut jamais dire jamais. Tu sais. Là, je dis, ah, moi, jamais je m'entraînais, sauf c'est lever des poids, puis ah non, voyons donc. Je veux dire, je me voyais pas. Moi, je me dis, mais semble, tu fais un sport, il y a de l'action, il y a de la stratégie, tu sais, il y a quelque chose. Mais là tu es tout seul. Là, surtout ceux qui se regardent devant le miroir, là, tu sais. Hey! Mais là, j'ai compris pourquoi. Là, je me regarde devant le miroir parce que je suis là, hey! Il commence à se développer, puis là, je suis content. Là, je vois que ça bouge. Hey, c'est bien le fun! Avant ça, c'était tout mou. C'était, hey, wow! Mais là, c'est parce que ma fille s'inscrit au gym. Là, mon fils, il dit, hey, il faudrait bien que j'y aille. Moi, je veux me tenir en forme, tout ça, il va. Là, mon fils, il me demande, hey, Pat, voudrais-tu venir? Là, ma femme me donne un coup de coude. Dit, ton fils veut qu'il y aille avec toi. Prends donc cette occasion-là. OK, je vais y aller. J'y vais. C'est un peu reculant. Je m'inscris. En passant, combien de temps il me reste? Là? Parce que moi, des fois, je perds la notion du temps. Là. OK, parfait. OK. Non, une heure, ça va être assez pour moi. C'est une farce. Puis, fait que là, je m'inscris. Là, la fille, elle me montre ça. Je dis, hey, dans le fond, c'est le fun. Hey, c'est pas pire. Hey, puis c'est pas si long que ça. Puis tu passes à une autre machine. Puis, hey, c'est le fun, tu travailles à une autre muscle. Ah, ça, c'est plus plate, mais c'est pas grave. Moi, j'essaie de faire les plus plates en premier, puis les plus le fun en dernier, tu sais. Là, finalement, je pogne la piqûre. Puis là, wow, c'est le fun. Fait que là, ça fait un an que je suis au gym, puis là, je dis, bon, c'est bon, là, je travaille fort, surtout mes abdominaux. Là, c'était ça, tu sais, quand ça fait 43 ans qu'ils sont mous, ça prend du temps. Fait que là, à un moment donné, il y a un gars qui n'arrête pas de m'observer. Là, il m'observe. Puis là, il me voit, là, tu sais, là, je suis là. Là, il me regarde. Là, je le vois dans le miroir, il me regarde. Qu'est-ce qu'il va me dire, là? Il dit, hey, il dit, écoute, prends-les comme ça, là. Parce que quand tu tires de même, là, c'est tes doigts qui forcent. Là, c'est toute ta main, là, puis là, tu vas voir, ça va travailler ces muscles-là. Fais ça comme ça. C'est le même mouvement, mais là, tu vas avoir plus de muscles. Lui, il n'arrête pas de me regarder, puis à chaque fois, je fais quelque chose. Hey, regarde. Non, fais ça comme ça. Là, mets tes épaules en arrière quand tu fais ça de même, là, parce que sinon, tu vas avoir un hernie discale. Mais le gars, il est préoccupé par moi. OK? Lui, il a l'amour derrière. Mais imaginez si c'était un gars qui dit, non, c'est pas correct, c'est pas comme ça, là. Non, t'es vraiment pas bon. T'es un pourri. Là, je serais accablé. Je serais, ah non, j'aurais pas le goût. J'aurais le goût de me cacher. Je veux pas le voir, celui-là. Là, je rentrerai au gym, je le verrai. Je dis, non, je vais revenir quand il va être parti. Non, mais l'autre, lui, il me regarde, il m'observe, il est concerné par moi. Puis ça, c'est l'Esprit du Seigneur. Quand il veut nous amener plus loin, quand il veut qu'on se développe, quand il dit, non, abandonne cette façon-là de faire parce que ça va te faire du mal. Il est concerné. C'est la loi de l'amour. Le Seigneur dit, gars, je veux que tu puisses accomplir, marcher dans mes voies, marcher dans ma parole, parce que ça va t'amener du bien, c'est pour toi. Le Seigneur il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de notre fidélité, il n'a pas besoin de notre adoration. Dieu n'est pas insécure en disant, il y en a-tu qui vont m'aimer là, ici, là, puis là je suis jaloux, il y en a qui aiment plus Satan que moi, là je suis pas content, là, puis là je vais me fâcher, je vais leur imposer de me louer. Là. Non, Dieu sinon il serait carencé. Dieu, c'est pour nous qui dit, loue-moi parce que je veux que tu réalises combien que je suis grand et que tu as besoin d'un Dieu grand comme moi. C'est pour mon bien qu'il veut que je me tourne vers lui. C'est pour mon bien qu'il veut que je le suive. C'est pour le salut du plus grand nombre parce que c'est une bonne nouvelle à laquelle il nous appelle. Et il va dire, donc, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En disant, OK, tu penses que toi, tu en fais plus que les autres, même si tu en manques juste un, tu passes à côté. En effet, celui qui dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Et la loi pour les Juifs, il y avait une loi dans laquelle, dans cette loi-là, il y avait des ordonnances, des jugements, il y avait au total 613 commandements. Les 10 commandements qu'on connaît. Et 603 autres commandements, où est-ce qu'il y avait des ordonnances, des jugements, etc., etc. Mais c'était une loi. Donc, si tu transgresses un des commandements de la loi, tu as transgressé toute la loi. tu deviens coupable, tu es condamnable. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. Et il dit « Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. » Et là, il va dire, il a parlé justement de cette loi royale, et il parle maintenant de cette loi de liberté. « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » La miséricorde triomphe du jugement. Et c'est intéressant, la loi de liberté, parce qu'une loi, là, c'est une obligation, c'est quelque chose qu'on est tenu d'accomplir. Quand tu dis c'est la loi, là, sinon il y a une sanction. Si tu ne respectes pas la loi, il y a une sanction. Paye pas tes impôts, crois-moi, ils vont te suivre, puis les intérêts sont élevés, puis ça va aller vite. Tu vas avoir une sanction. Puis la liberté, au contraire, c'est drôle parce que c'est comme deux contrastes. Une obligation de liberté. La loi, c'est contraignant. La liberté, c'est libérant. Comment quelque chose de contraignant peut être libérant? Et Paul, lui, il va le dire dans Romains chapitre 8, verset 2, « La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Il va dire aux Corinthiens, il dit, « La puissance de la loi, la puissance du péché, c'est la loi. » C'est la loi qui nous garde captifs. C'est la loi de Moïse, pas parce que la loi est mauvaise, parce que notre cœur est enténébré. Mais ce que Dieu veut nous faire goûter, c'est cette loi de liberté. Et tournez avec moi dans Galates chapitre 6. Ça se résume parce que là, je priais le Seigneur, je me dis, comment je peux expliquer ça, cette loi de liberté? Parce que Dieu nous donne une liberté en Jésus-Christ qui est extraordinaire. Pas une liberté qui nous amène à dire, bon, moi, je vais vivre dans le péché comme je veux, je suis libre. Non, non. Au contraire, tu vas être libre de dire non au péché. Tu vas avoir cette liberté-là, ce loisir de dire non, je ne me laisse pas envahir par le péché. Je ne me laisse pas contrôler par le péché. Je suis capable de dire non. Celui qui est libre fait des choix. Je suis capable, face au péché, d'y dire non en Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous enseigne, qu'est-ce que ça dit dans Tite 2, 11 et 12? Elle nous enseigne à renoncer à toute impiété, à toute convoitise mondaine. La grâce de Dieu nous enseigne à dire non, nous donne cette liberté de dire non. Et dans Galates chapitre 6, on voit vraiment au verset 1 l'attitude de cœur quand il dit que la miséricorde triomphe. En autre mot, j'ai été voir les commentateurs, là, il dit c'est comme c'est un peu la meilleure image que j'ai vue, c'est. La miséricorde se pète les bretelles du jugement. Boast! Et l'attitude, elle est ici. Galates chapitre 6, verset 1. Frères, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est exactement ce que Jacques dit. Il dit, si tu as transgressé la loi, tu es un transgresseur au même titre que l'autre. Donc, quand tu veux reprendre, là, imagine que c'est toi qui es repris. Imagine que c'est toi qui es en faute. Comment tu voudrais qu'on te réintègre? Comment tu veux qu'on t'amène à une réconciliation? Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais mettre des gens sous discipline. J'en ai mis en tant que pasteur des gens sous discipline. Mais il y a un processus en disant, avant de passer à la discipline, est-ce qu'on peut gagner ce frère-là? Est-ce qu'on peut l'amener à redécouvrir la bonté de Dieu? Parce que Romains 2, 4 nous dit que c'est par les bontés de Dieu qu'on est poussé à la repentance. Et si oui, gloire à Dieu, Jacques va dire à la fin du chapitre 5, les versets 19 et 20, c'est merveilleux quand on a ramené un pécheur de ses mauvaises voies. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Et comment ça s'applique, ça? De reprendre spirituellement ou d'être un soutien, mais c'est le verset 2 qui nous le dit. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. Porte les fardeaux. C'est pas juste dire, gars, vas-y là, sois fidèle, persévère, frère. Non. Est-ce que moi je peux être un soutien? Est-ce que je peux être là pour lui? Est-ce que ça peut me demander de dire, je dois le rencontrer chaque semaine, l'encourager, l'appeler. Ça peut être des choses bien simples. Hein? Pour moi, par exemple, un fardeau, c'est les travaux manuels. Puis en plus, j'aime pas demander aux autres, tu sais, hey, peux-tu venir m'aider? Mais quand quelqu'un là, vient m'aider ou qui me le montre comment, puis qui est là, attends, va-t'en pas, je vais être sûr que je le fais comme il faut. Là, pour moi, là, c'est quand ça me soulage d'un fardeau. Puis il y en a là, pour eux autres, là, être manuel. Mon père, cette valeur, il est décédé. Mais mon père, il n'avait rien dans son épreuve. Il pouvait patenter n'importe quoi. Mais moi, je ne l'ai pas, ça. Mais quand quelqu'un vient, puis il est là, puis il me supporte, combien que ça fait la différence. Puis moi, je me sens aimé à ce moment-là. Et nous, notre rôle, comment on peut supporter? Comment on peut être un soutien? Comment on peut alléger les fardeaux des gens? À chaque fois qu'on allège le fardeau de quelqu'un, on est en train d'accomplir la loi de Christ. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Et en terminant, j'aimerais vous laisser sur un dernier passage dans Dieu voulant, évidemment. Ça m'arrive des fois de dire ça, puis j'en mitraille deux, trois autres après. Alors, je dis bien Dieu voulant, parce que sinon je pêche en disant que c'est le dernier, puis c'est pas vrai. Mais ça s'en vient, ça achève. Votre supplice achève. Dans Luc chapitre 1, c'est le cantique de Zacharie, le père de Jean le Baptiste, qui était rempli du Saint-Esprit. À partir du verset 67, on voit qu'il prophétise, il va dire « Béni soit le Seigneur » au verset 68. Et le Dieu d'Israël, de ce qu'il nous a visité et racheté son peuple, il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, donc c'est Jésus, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, écoutez bien ça, là, c'est là que je vais attirer votre attention, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Après d'être délivré, la loi de la liberté, ce qu'elle veut, c'est nous délivrer, nous briser les chaînes pour qu'on puisse être libre. Libre de quoi? De le servir sans crainte. D'avoir cette joie de notre salut qu'on retrouve, qui nous remplit et qui nous donne de ne pas juste chercher à faire le bien puis fuir le mal, mais être enthousiasmé par l'amour de Dieu, être enthousiasmé par ce que Dieu va produire dans nos vies. Quand on est en amour, il n'y a jamais de limite. Il n'y a pas de prix. Je veux dire, tu es prêt à n'importe quoi. Tu es prêt à faire un mille extra. Tu es prêt à te donner. Ce n'est pas forçant quand tu es en amour. Quand tu travailles pour ton boss et que tu n'aimes pas ta job, je veux dire, ah, il te demande de faire 15 minutes de temps supplémentaire. Tu es là, ah non, je suis obligé, boss. Là, c'est pénible. On dirait que tes souliers sont pesants. T'sais. Puis malheureusement, Il y a dans nos vies, il y a des phases qui sont comme ça. Et ça doit attrister le Seigneur parce qu'il dit non. Si là, pour m'aimer, Jean, il l'a compris, lui. Ah, je vous l'avais dit, hein, des fois j'en rajoute des versets. Jean, il l'a dit dans 1 Jean 4,10 puis 4,19, si j'aime Dieu, c'est parce qu'il m'a aimé le premier. Si je suis en amour avec Dieu, là, c'est parce que j'ai découvert que lui m'aime. Mais pour ça, là, si je veux tomber en amour, là, quand je sens que mon amour là, pour le Seigneur diminue, baisse, là, je dis, Seigneur, là, j'ai perdu de vue que tu m'aimes. J'ai perdu de vue que je suis l'objet de ton amour. L'apôtre Paul, lui, l'a compris. Il dit, l'amour de Christ, 2 Corinthiens 5,14, me presse. Elle me pousse. Et là, quand je suis en amour là, avec Dieu, là, puis là, il me délivre de mes ennemis, et là, il aplanit les sentiers devant moi. Bien, je veux dire, la vie chrétienne, c'est pas un fardeau pesant, lourd. C'est au contraire une bonne nouvelle. Je veux la chanter. Je veux la proclamer. Là, ça me donne un zèle pour prier pour des gens. Dire, il faut qu'ils connaissent cet amour-là. Il faut qu'ils connaissent cette liberté-là. Puis quand je vois un frère qui tombe, là, je suis brisé. Je dis, hey, si là, il est assoiffé par le péché et le mal, c'est qu'il a perdu de vue qu'il est aimé de Dieu. ses dons à Tristan. Comment moi je peux alléger son fardeau? Comment je peux être une source pour que Dieu m'utilise, pour que cette personne-là puisse réaliser, comme Jean dit encore une fois dans sa première lettre, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que... Voyez! C'est comme si Jean, il veut nous secouer, dire, tu vois-tu là, combien Dieu t'aime? Là? Tu le vois-tu? Ça peut transformer ta vie d'être aimé par Dieu. Ça peut, c'est cette loi-là, tu vas aimer ton prochain. Pourquoi? Parce que moi, je sais, je peux aimer mon prochain parce que j'ai vu mon cœur, pécheur, puis comment Dieu m'a reçu, comment Dieu m'a pardonné, comment Dieu, de foi, il a fait miséricorde. Combien de fois, là, je me serais disqualifié moi-même, puis Dieu dit, « Allez, tape sur l'épaule, on recommence, humilie-toi. » Demande pardon, avoue tes torts, cherche à réparer tes fautes si tu as blessé quelqu'un, relève-toi. Ouais, mais Seigneur, j'ai honte, relève-toi. Marche, prends ton lit puis marche. Ouais, mais Seigneur, je vais avoir de l'air fou. Humilie-toi, je résiste aux orgueilleux. Ok, Seigneur, hey, wow, t'es bon, Seigneur, dans le fond, ce que tu veux, c'est que tu veux vraiment m'utiliser pour ta gloire. Je veux dire, tu vois vraiment plus grand que moi. Parce que celui qui se sait pardonner de peu va être reconnaissant de peu. Celui qui se sait pardonner de beaucoup va être reconnaissant de beaucoup. Puis notre joie, elle vient de là. Je suis tellement reconnaissant que Dieu m'a fait grâce. Pas juste pour mon salut le 14 janvier 84, mais m'a fait grâce à tous les jours. Parce que tous les jours, je suis un pécheur. Comme Asaph, il dit dans le psaume 73, mon péché est devant ma face tous les jours. Je dis, ah non, j'ai pas ça. Ah, j'ai manqué d'amour. Ah, j'ai manqué de patience. Ah, j'ai été trop sévère. Ah, j'ai été trop mou ici. Continuellement. Je dis, dès que la parole de Dieu te visite, à un moment donné, tu te dis, hey, je vois-tu y arriver? Puis je me rappelle l'apôtre Paul qui dit, quand il priait pour sa délivrance, le Seigneur a répondu, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Elle est suffisante. Et là, notre attitude à ce moment-là, quand quelqu'un est en difficulté, on n'est pas là avec le bat pour dire, bon, je vais t'achever, là. Mais en disant, hey, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Comment je peux être... Est-ce que si moi, je peux rien faire, y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut venir en aide à ce frère ou cette sœur-là? Puis il y aura des temps, on va être obligé d'appliquer la discipline, mais en vue qu'il y a une restauration, en vue que cette personne-là réalise de quoi elle s'est privée, puis qu'elle aspire à regoûter la joie du salut. Ou, peut-être c'est une personne qui n'était pas sauvée, qui avait juste une démarche religieuse, chrétienne, puis qu'elle découvre le salut pour sa vie. Et donc, Jacques voulait briser cet esprit pharisaïque en disant, là, vous allez arrêter de voir, dans la connaissance du bien et du mal, vous allez arrêter de voir qu'un riche est béni, mais de voir les cœurs et d'être là pour supporter les frères, qu'ils soient riches ou pauvres, d'être une source de bénédiction pour la communauté. Amen. Alors, je vous demande pardon si jamais j'ai dépassé le temps. Alors, si vous voulez, on peut se lever puis prier pour la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, merci pour ta parole parce que elle est la vérité. Elle éclaire nos cœurs. Tu dis que ta parole, elle éclaire nos sentiers. Et ma prière, c'est que, comme c'est dit dans Isaïe, que ta parole, elle ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. Que cette parole puisse germer dans de la bonne terre, Seigneur. Qu'elle produise du fruit. Seigneur, je demande dans le nom de Jésus la bénédiction pour cette Église, que tu puisses faire prospérer cette Église, Seigneur Dieu, dans le cœur de chacun, qui puisse avoir une croissance, un développement qui grandit, que ton amour puisse être révélé continuellement aux membres de cette Église, Seigneur Dieu. Et si quelqu'un n'a jamais reçu Jésus comme sauveur, eh bien, c'est le temps aujourd'hui. Attends pas à demain. L'apôtre Paul disait, c'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui, le jour, le salut, c'est-à-dire la délivrance, la guérison. Si tu as pris conscience aujourd'hui que tu es un pécheur et que tu as besoin d'être sauvé, tu as besoin tu ne pourras pas y arriver. Tu ne peux pas arriver à accomplir tout ce que Dieu demande. C'est trop haut. Lui, Jésus-Christ, veut payer ta dette. Il dit, gars, tes péchés, là, je suis mort à la croix à ta place. C'est moi qui ai été condamné. Est-ce que tu acceptes ça? Dis-lui, Seigneur, j'accepte que tu es mort à ma place. Je veux t'appartenir maintenant. Puis va voir un frère après. Dis-lui, j'ai fait cette demande à Dieu. Parle-moi-en. Je veux que tu m'expliques c'est quoi ça être sauvé davantage. Je veux comprendre c'est quoi la vie chrétienne. C'est quoi tout ça, là? Fais un pas. Dieu t'aime. Il veut te sauver. Merci, puisses-tu pourvoir continuellement une relève dans cette Église. Garde cette Église en vie, parce que tu es le Dieu vivant. Je te remercie pour toute bénédiction que tu as déjà accordée à cette Église. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.